Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 8h à Djéma, même heure à Nioro du Sahel et encore à Tombouctou. Et c'est également la même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. Voici les titres. Les travaux de la 27e édition de la conférence mondiale des parties sur les changements climatiques COP27 ont démarré dimanche en Égypte. Les enjeux de cette COP sont énormes pour le Sahel, soulignent des acteurs du Niger, du Burkina et du Mali. Le paludisme fait des ravages à Djéma dans la région de Nioro. Les autorités sanitaires déplorent 36 décès sur les 15 200 cas enregistrés cette année. À Tombouctou, au nord du pays, l'impact de l'insécurité frappe de plein fouet les établissements hôteliers. Mais malgré les difficultés, certains continuent de marcher. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Les terres continuent de se dégrader, le planète se réchauffe d'année en année. La disparition des espèces reste inquiétante à travers le Sahel et dans le monde entier. C'est dans ce contexte que la 27e édition de la Conférence mondiale des parties sur les changements climatiques COP27 a commencé ce dimanche 6 novembre en Égypte. La rencontre de 13 jours mobilise les dirigeants, acteurs de la société civile, les experts du monde pour trouver une solution au réchauffement de la planète. Les enjeux de cette COP sont énormes pour le Sahel, soulignent différents acteurs du Niger, du Burkina et du Mali. Le point avec Mahaman Babakunta.
Le Mali sera représenté à cette COP27 par une délégation composée d'une cinquantaine de personnes conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable. Drissa Doumbia, point focal national changement climatique pour le Mali.
Il s'agit pour nous de mettre la pression au sein de nos groupe de négociation sur la communauté internationale de respecter ses engagements. Les engagements pris en termes de financement, en termes d'appui et en termes de transfert de technologies aux pays en voie de développement comme le Mali.
Quelques jours avant le démarrage de cette COP27, des jeunes activistes ont organisé une conférence sur le climat à Niamey au Niger. Sani Ayouba, directeur exécutif des JVE Niger, jeune volontaire pour l'environnement, nous en parle.
Vous savez, au Niger, nous souffrons trop des inondations, de l'impact des sécheresses. Donc c'est pour porter ces messages et puis porter aussi les bonnes pratiques qui sont développées par nos communautés pour rester plus résilientes face aux crises de catastrophes que je viens de citer.
La lutte contre les changements climatiques est une question d'urgence. Cependant, il est important que les actions climatiques soient au cœur des décisions qui seront prises durant les négociations de cette COP. C'est le souhait de la jeune Burkinabé Risnata Ouedraogo.
Mon message à l'endroit des représentants de la jeunesse à la COP27, c'est qu'ils puissent parler à notre place et demander aux grands leaders du monde de renforcer leur engagement en faveur du climat.
Notons que cette COP27 se tient dans un contexte où de nombreux experts se demandent comment sauver l'accord de Paris sur le climat.
Un sujet signé Mahaman Babakunta. Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Allons à Djéma où 50 907 cas de paludisme, dont plus de 15 200 cas graves et 36 décès ont été enregistrés dans le district sanitaire courant 2022. Ces chiffres ont été annoncés par le médecin-chef du district sanitaire de la localité. Selon lui, 42% des consultations dans les établissements de santé concernent cette maladie. Le spécialiste invite les plus hautes autorités du pays à inscrire dans leurs priorités la lutte contre le paludisme. Les détails avec notre correspondant à Djéma, Imirana Kilumaïga.
En plus des malades de Djéma, le centre de santé de référence accueille également des patients venus de Nara, de Nioro, Kita et Bafoulabé. La tranche d'âge la plus vulnérable est les enfants de 0 à 5 ans, explique Moussa Kone, médecin-chef du district sanitaire de Djéma.
Le centre de santé de référence est le lieu privilégié d'accueil de tous les cas compliqués qui sont vus au niveau des centres de santé communautaires. Si vraiment au niveau des structures de santé, les cas sont vus très tôt et la prise en charge est vite faite et à moindre coût.
La plupart des accompagnants des patients rencontrés au centre de santé de référence de Djéma déplorent des cas de paludisme grave et une prise en charge difficile.
Je suis venu le lundi soir. Mon enfant saigne à travers le nez. Les médecins disent qu'il souffre d'une anémie. Je souffre d'une anémie, mais on n'a toujours pas trouvé du sang.
Considéré comme une épidémie de santé publique, le spécialiste invite les populations à utiliser le moustiquaire imprégné et les insecticides. En outre, Moussa Kone appelle les décideurs à faire de la lutte contre le malaria une priorité. De Djéma, Imran Akilo Maïga pour Studio Tamani.
Quittons donc Djéma pour aller à Tombouctou, cette fois-ci pour parler de l'impact de l'insécurité sur les établissements hôteliers. Plusieurs hôtels ont fermé leurs portes par manque de clientèle. D'autres ont licencié des employés pour réduire les dépenses. Toutefois, certains promoteurs d'hôtels affirment tenir bon malgré ces difficultés. Pour plus de précisions, retrouvons notre envoyé spécial à Tombouctou, Oumar Weygalo.
À Tombouctou, des établissements hôteliers qui accueillaient des milliers d'étrangers venus des quatre coins de la planète sont presque vides aujourd'hui. Il y a rarement des clients et certains employés ont été licenciés. Sarmoy Mahamoun, gérant de l'hôtel de la Colombe de Tombouctou.
On n'a rien, il n'y a rien, absolument pas de clients, pas de visiteurs, pas de touristes. Même les ONG qui viennent ne viennent plus. Même pour faire l'entretien, même c'est un problème. Et les factures ne font que se cumuler, souvent nous menace de couper.
Pourtant, il y a des hôtels qui tentent de tenir avec les missionnaires des ONG et du gouvernement. El Mouktar Babi, gérant de l'hôtel de l'auberge du désert de Tombouctou.
Avec l'arrivée de l'administration, des ONG, nous pouvons dire que nous redémarrons avec activisme. Et nous recevons aussi suffisamment de clients. Nous ne faisons pas face à des difficultés, mais nous souhaitons toujours davantage qu'il y ait chaque fois d'amélioration.
Depuis la crise de 2012, les étrangers ne viennent plus visiter la cité de 333 Saints. Une situation qui a impacté le secteur de l'hôtellerie. Oumar Weygalo de Tombouctou pour Studio Tamani.
Ce jingle nous amène donc dans notre rubrique « Vérifions ». Un faux compte du ministère de l'Économie et des Finances annonce un appel à candidature pour financer des entreprises agro-industrielles. Le ministère s'inscrit en faux. Fatoumata Koudjou a vérifié pour nous.
Cette annonce a été faite par un faux compte Facebook du ministère de l'Économie et des Finances. Sur le poste, on peut lire que la Banque mondiale et le FIDA, Fonds international de développement agricole, offrent un appui financier aux agro-industriels victimes de la crise économique. Le dit poste invite les intéressés à soumettre leur candidature via un site web donné. En cliquant sur ce lien, on vous demande de remplir un questionnaire, nom, adresse mail, téléphone, le montant souhaité et d'autres informations personnelles. Attention, ce n'est pas vrai. Le ministère de l'Économie et des Finances apporte un démenti à ces fausses informations et informe que sa page Facebook officielle est accessible et certifiée. Selon le communiqué du ministère, cette annonce est faite par des personnes malveillantes. Il précise que toute autre information diffusée en dehors des canaux de communication officiels du ministère de l'Économie et des Finances n'est pas à prendre en considération. Notons que ce genre d'annonce est fréquente sur les réseaux sociaux ces derniers temps.
Cap sur l'actualité de la semaine. Elle a été marquée par la suspension de Djoliba TV, par le meeting du Haut Conseil islamique, entre autres. N'est-ce pas, Abdoulaye Touré?
Bonjour Mariam, on entame cette rubrique par le meeting du Haut Conseil islamique organisé sur le boulevard de l'Indépendance le vendredi dernier. L'institution islamique proteste et condamne les propos blasphématoires proférés contre l'islam par un homme sur les réseaux sociaux. L'organe a fait part de sa détermination à suivre de près l'évolution du dossier instruit en justice. Autre sujet phare de l'actualité de la semaine, la décision de suspension de Djoliba TV par la HAC. La haute autorité de la communication a interdit à la télévision d'émettre pour une période de 2 mois. L'organe de régulation malien dénonce l'utilisation d'expressions à forte connotation péjorative dans l'éditorial de la chaîne diffusée le 30 septembre dernier. L'actualité, Mariam, c'est aussi cette mise en garde du ministère de la Sécurité et de la Protection civile contre la rétention et la surenchère de la carte d'identité nationale. Le département précise que le document ne doit pas être cédé à plus de 1 700 francs au Mali.
Merci beaucoup Abdoulaye Touré et c'est ce qui met fin à cette édition matinale que j'ai eu le plaisir de vous présenter. C'était à la présentation Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Vous pouvez la réécouter sur notre site internet au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en bambara avec Idrissa Sako. D'ici là, excellent début de semaine à toutes et à tous. Les campagnes agricoles s'annoncent bonnes dans certaines localités du Sahel, mais des difficultés sont constatées dans de nombreux autres villages de la sous-région. Au Mali et au Niger, des paysans alertent sur la menace des oiseaux granivores et des insectes sur les récoltes. Pendant ce temps, des agriculteurs du Burkina Faso se plaignent de la surabondance des pluies. Ce magazine est une coproduction des médias de la Fondation Hirondelle au Sahel, Studio Yafa, Studio Kalangou et Studio Tamani. Il est présenté par Fatih Attara.
Au Burkina Faso, des paysans se plaignent à Kouri, dans la région du centre. Ils estiment que l'excès des eaux de pluie a compromis les récoltes de maïs et haricots. Témoignage des paysans rencontrés par Micheline Guigma.
Malheureusement, avec la continuité de la pluie, les maïs sont séchés. Ça a commencé à germer encore sur la plante. Donc, au total, ça a été un investissement à perte.
À raison des pluies, il n'y a pas de soleil. Et de ce fait, les récoltes ne sèchent pas. Nous n'avons pas de récolte. Avec ce qu'on a obtenu, on ne pourra tenir que 2 mois.
À l'heure, en tout cas, ça continue à pleuvoir, mais ça gâte beaucoup de choses. Parce que haricots, avec les fleurs, là, quand ça pleut beaucoup, les fleurs tombent, ça ne donne pas bien. Donc, c'est pas facile.
Au Niger, ce sont les autorités locales de la commune rurale de Dingazi Banda qui alertent sur une attaque des ennemis des cultures observée dans plusieurs villages. C'est dans le département de Oualam, une zone frontalière avec le Mali. Souleymane Soumana, maire de la commune rurale de Dingazi, au micro de Hassan Moumini.
La campagne agricole cette année, Dieu merci, nous pouvons dire qu'elle est appréciable. Parce que tous ceux qui ont cultivé ont récolté proportionnellement à leurs efforts. Néanmoins, nous avons rencontré quelques difficultés par rapport à la culture du mil. Il s'agit notamment de la chenille épineuse qui a occasionné d'énormes dégâts. Dans certaines zones, elle a complètement détruit les premières semis. Ensuite, les vers et d'autres insectes ont empêché le haricot de bien se développer. Certains champs de niébé sont tellement ravagés qu'ils sont insupportables à regarder pour un agriculteur qui n'a d'autres ressources que ses céréales. Mais sans ces ennemis de culture, dans 80 sur 100 champs de la commune, les producteurs auront de quoi tenir l'année, plaise à Dieu. Et malgré la réussite d'une campagne agricole, on ne manque pas de difficultés par endroit. Sinon, la saison a été très bonne et nous souhaitons qu'il en soit ainsi les années prochaines, sinon plus.
C'est la même situation dans certaines localités du Mali, où de nombreux paysans ont anticipé les récoltes. C'est le cas de Bankas au centre du pays. Abdoulaye Togo, paysan.
On a commencé très tôt la récolte de mil. Par contre, dans les villages voisins, il y a eu des dégâts.
Toujours au Mali, à Kita, dans le sud du pays, Zoumana Tunkara, vice-président de la Chambre locale d'agriculture, prévient que les objectifs de cette campagne agricole ne seront pas atteints à Kita.
On peut dire que le mal est déjà arrivé. Les oiseaux sont entrés au champ. Ils ont atteint nos cultures. Je ne suis pas sûr si les objectifs fixés seront atteints à Kita pour le coton.
Toutefois, à Mopti, au centre du pays, les acteurs du secteur agricole affirment que la campagne sera bonne cette année. Suivons ce témoignage.
Malgré les inondations et l'insécurité, au niveau de Mopti, quand même, on peut dire que vraiment ça va, alhamdoulilah. Ça s'annonce très bien d'ailleurs. On peut dire même exceptionnel.
Nous avons programmé en blavé 5300 hectares pour une production de 1 024 000 tonnes. Et il y aura un excédent à dégager de plus de 500 000 tonnes.
Il faut rappeler que les paysans de ces 3 pays fondent beaucoup d'espoir sur cette campagne agricole dans un contexte marqué par la hausse des prix des denrées de première nécessité au Niger, au Burkina Faso, tout comme au Mali. Ce magazine est une coproduction des médias de la Fondation Hirondelle au Sahel. Studio Yafa, Studio Kalangou et Studio Tamani.